Chalie m'était contée. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à Luc et bonjour à André.
Bonjour.
Parce que on parle jamais des gens de l'ombre là, qui me font écho. D'abord d'une façon technique, il est devant moi, hein, avec son écouteur bien particulier. Et André donc me donne la réplique avec beaucoup de gentillesse dans nos différentes émissions. Alors puisqu'on en est au résumé, comme dans tout bon feuilleton, revenons un petit peu à notre dernière émission pour vous rappeler que nous étions arrêtés à l'évocation d'un personnage tout à fait extraordinaire, hein, qui se nomme Gilles Mallet et qui va remplir la fonction de, si on comparait, si vous voulez, à ce qui se passe de nos jours, la fonction de directeur de la BNF, de la Bibliothèque nationale de France, mais en même temps, je dirais aussi de ministre de la Culture. Alors, soyons sérieux, hein, il ne s'agit pas de dire que ces deux fonctions existaient au Moyen-Âge, à la fin du XIVe siècle. Mais pour vous donner quand même cet exemple, c'est pour montrer que ce personnage a eu une action tout à fait prédominante pour l'introduction, je dirais, du plaisir du livre dans le domaine royal. Et bien sûr, cela ne pouvait se faire qu'avec l'assentiment complet de son roi, hein, de son bon roi Charles V. Gilles Mallet nous intéresse aussi parce qu'il il s'est trouvé assez souvent dans notre région, non seulement à Crépy, mais aussi à Pont-Sainte-Maxence et aux alentours. Et je pense bien sûr à l'abbaye de Chalie qui nous intéresse depuis de nombreuses émissions. Alors, nous étions arrêtés à l'évocation d'une charte que les abbés de Chalie avaient adressée au roi Charles V, qui était un visiteur assez fidèle de l'abbaye, avec Gilles Mallet, justement. Hein, je vous rappelle que quand vous entrez dans l'église de Chalie, vous avez des chapelles latérales sur votre droite, et la quatrième était vouée à la Sainte Trinité. Chose importante quand on parle de Charles V et de Gilles Mallet. Et c'est dans cette chapelle que se trouvait cette plaque commémorative en l'honneur de ce bibliophile tout à fait remarquable. Cette charte est enluminée. Et je citais la dernière fois Ghislain Brunel, qui l'a étudiée en particulier, et qui, contrairement aux habitudes souvent trop communes, a bien insisté sur le rôle de l'image dans la charte. C'est-à-dire, dans une charte, vous avez non seulement un texte qui est écrit, hein, pensez donc à ces moines copistes, en quelque sorte, mais aussi c'est un manuscrit enluminé. Et jusqu'au début du XXe, on avait l'habitude de considérer que les enluminures étaient un peu comme des tableaux, hein, qui sont accrochés dans un musée, donc on pouvait les accrocher, les décrocher, les découper, les encadrer et les sortir du contexte dans lequel elles avaient été réalisées. Bien sûr, c'est une erreur. Imaginez que vous achetiez votre bande dessinée favorite et que vous commenciez à découper les bulles, hein, ou les phylactères, comme vous voulez, sans tenir compte de l'image. Bien, c'est à peu près la même chose qui arrive pour un manuscrit médiéval dont on retire évidemment du contexte textuel, le contexte iconographique. Alors la charte de l'abbé de Chalie au roi, alors bien sûr c'est l'abbé qui s'adresse au roi, ce ne sont pas les moines, conservant la hiérarchie. La charte de l'abbé de Chalie au roi Charles V, elle est datée de 1379. La première enluminure, c'est un très grand S qui est une initiale sur fond d'or, et ce S va structurer toute la page, et il est orné d'un K, évidemment, fleur de lysée, en or sur fond azur. Si je dis cela, c'est que vous avez déjà les deux thèmes principaux de ce qu'il allait devenir les armes de la Maison de France. Fond azur, ça veut dire donc bleu, et or, évidemment, on n'a pas besoin d'être traduit. D'ailleurs, le terme bleu au Moyen-Âge n'est quasiment pas utilisé. On utilise le mot arabe azur en lieu et place du bleu que nous utilisons de nos jours. Peu de temps avant sa mort, une enluminure de l'inventaire de tous les joyaux, tant d'or comme d'argent, de Charles Alors, je vais l'appeler par le nom qu'on lui donne. À l'époque, on dit Charles le Quint. Mais si on dit, nous, Charles V, c'est pour éviter, évidemment, de confondre ce Charles Quint de un autre Charles Quint, évidemment, qui sera beaucoup plus connu dans l'Empire germanique, dans les temps de la Renaissance. Alors, notre Charles le Quint, lui, est représenté sous un dé qui est sommé d'un écusson couronné avec trois fleurs de lys. Trois, vous retrouvez la trinité que j'évoquais tout à l'heure à propos de la chapelle de Chaly. Et en plus, bien sûr, on va agrémenter cet écusson de figurations des pieds de deux lions à longue queue, que l'on retrouve d'ailleurs en général comme supportant l'écu royal. Charles V était très attentif à la composition des enluminures. Et on retrouve des textes où il l'exprime d'une façon très claire. Alors, ce texte que j'évoque, cette charte, n'est pas simplement un long panégyrique, c'est-à-dire des louanges, en quelque sorte, au troisième roi de la dynastie des Valois. Il faut bien tenir compte que la mise en valeur de la lettre K est loin d'être anodine. Pour deux raisons, bien sûr. K, vous avez traduit vous-même Carolus, hein, donc Charles Quint. Mais K, évidemment, c'est Caelis, c'est-à-dire Chaly. Et Chaly n'est-elle pas, elle, une abbaye royale fondée par Louis VI pour la mémoire de son cousin Charles Ier de Flandre, dit aussi Charles le Bon, ou, en flamand, Karl der Gute. Il avait été assassiné, vous souvenez, par son châtelain, ou ses châtelains à Bruges en 1126. L'abbaye se nomme alors, tout simplement, Monasterii Caroli Loci, le monastère du lieu de Charles, en quelque sorte. On aurait pu appeler Chaly Charles Lieu, si on voulait conserver notre vocabulaire actuel. Depuis Louis VI, nombreux sont les rois capétiens à venir dans ce lieu de prière dédié à la famille royale. Et les uns après les autres, ils vont y confirmer toutes les anciennes donations. Alors bien sûr, on est à Crépy, et comment ne pas évoquer les visites en voisin du comte du Valois, devenu roi, hein, comme vous le savez, sous le nom de Philippe VI de Valois. Mais vous savez que sa légitimité était très précaire, remise en cause, et qu'elle fut d'ailleurs une des causes de la guerre de Cent Ans. Comme Louis VI, qui s'inscrit dans la suite de Louis V, qui lui était un carolingien. Donc Louis VI, le capétien, prend le numéro 6, tout simplement, pour s'inscrire dans la ligne des carolingiens. Il installait en quelque sorte Charlemagne dans son ascendance. Charles V, lui, va se situer lui aussi dans la ligne des rois francs. Il ira même plus loin, hein, voir des souverains antiques. Alors, faut-il le croire? Y croyait-il? On est toujours entre fables et archives. La charte de Chaly, adressée au roi par les moines de Chaly, évoque quatre ruisseaux, d'abord, qui s'écoulent de la source royale. Et chacun d'eux était associé à un personnage antique, censé représenter, en quelque sorte, les vertus du roi de France. Parmi ces vertus, on va trouver tout d'abord la prudence. Alors, pour la prudence, les moines en appellent un philosophe romain qui s'appelle Caton, hein, qui du 2e siècle avant Jésus-Christ. Mais ils en appellent en même temps à Jules César. Hein. Alors, je ne vais pas dire l'empereur, puisque vous savez, il n'a pas été empereur. Hein. Il a été assassiné avant. Pour la justice, ils vont donner comme exemple Héraclite, qui est un philosophe grec du 6e siècle avant Jésus-Christ. Et Justinien, alors là, bien sûr, on arrive à l'Empire romain d'Orient. Pour la tempérance, on va trouver Diogène, qui vivait de la façon la plus simple possible, comme vous le savez, et Théodose, donc un philosophe Diogène, et Théodose, dernier empereur, qui avait encore sa directive les deux empires avant qu'ils ne se séparent. Enfin, pour le courage, quoi de mieux que de citer Alexandre, hein, Alexandre le Grand, 4e siècle, avant Jésus-Christ. Donc vous voyez que ces références sont intéressantes parce que je dirais qu'elles sont plus universitaires de l'ordre de la connaissance philosophique que religieuse. Alors maintenant, dans quelle ambiance, comme on dirait de nos jours, sommes-nous au moment de la rédaction de cette charte? Eh bien, n'oublions pas que ce 14e a été le siècle des violences. Ce sont les violences de la guerre de Cent Ans. Elles n'épargnent personne. Ni les biens d'ailleurs, ni les personnes. Que Chaly subit les exactions de bandes armées, qui sont des mercenaires, qui sont aussi des soldats, que les moines trouvent refuge d'ailleurs assez souvent dans l'enceinte fortifiée de Senlis. Mais plus tard, vont construire d'ailleurs un castelet dans l'abbaye elle-même, hein, pour assurer leur défense. Oui, parce qu'à Senlis, les rapports sont cordiaux, bien sûr, avec l'évêché, mais les gens de Senlis se plaignent que les moines viennent se réfugier, mais ne payent rien. Donc il y a quelques contentieux dans l'affaire. Peut-être est-ce une des raisons pour laquelle ils vont construire ce fameux castelet. Mais il n'y a pas que ça, hein. Le monastère est non seulement menacé par les violences, je dirais, extérieures, mais aussi il est menacé par une ruine spirituelle. Vous vous souvenez, on a parlé de Guillaume de Digulville, hein, et notre moine, lui, remarquait déjà qu'il vivait dans une période où la crise économique et fiscale menaçait le monastère, mais aussi la crise spirituelle. Dans la charte adressée à Charles V, je vous rappelle qu'elle date de la seconde partie du XIVe, de 1379, l'abbé, qui à l'époque s'appelait Gauthier le Comte, dresse un bilan tout à fait calamiteux. Voilà ce qu'il dit. Il dit qu'il y a une grande partie des constructions du monastère qui sont tombées, une autre partie menace ruine, les terres et les vignes n'étaient pas cultivées, et complète en disant, pour avouer la vérité, le monastère était presque détruit, et on avait quasiment cessé de faire le service divin, qui est pourtant la chose habituelle, évidemment, d'un monastère. Au début du XIVe, rappelez-vous aussi un autre personnage que nous avons évoqué, Jacques de Thérines, avait à peu près les mêmes constatations. Or, il faut toujours se méfier, parce qu'il y a des lieux-dits qui reviennent sans cesse en redire la même chose pour des événements différents. C'est peut-être le cas. En tous les cas, la guerre de Cent Ans avait succédé aux exactions de la guerre des Flandres, et les calamités, évidemment, se succédaient. Alors, pour vous rappeler un petit peu votre histoire scolaire, hein, rappelez-vous, c'est la défaite de Crécy, hein, la déculottée de Crécy, en quelque sorte, en 1346, qui va être suivie de la reddition de Calais. La peste noire, alors là, c'est un phénomène, évidemment, tout à fait considérable. Nous sommes aussi, nous, concernés par une autre forme de peste. Mais en 1348, il faut savoir que c'est environ un tiers de la population européenne qui va disparaître. Vous voyez, c'est les proportions. Ça représente quoi, 25 millions de personnes à l'époque, hein. Voilà. Sur le plan franco-français, si j'ose dire, le roi est capturé même, hein, à la bataille de Poitiers en 56. Et ça va se terminer par un traité de Bretigny, à la même date, hein, qui est tout à fait désastreux. Et puis, quand ce ne sont pas les désastres de la guerre, ce sont les dévastations des grandes compagnies, voire même le retour de la peste. Alors, il faudra donc attendre la seconde partie du règne de Charles V pour qu'intervienne un début d'apaisement qui sera évidemment favorable à ce moment-là à l'établissement de la collection de la librairie royale. Pour l'abbaye elle-même, les archives ne nous renseignent pas sur les exactions dont elle aurait été la victime. Et surtout pendant cette période que nous connaissons bien dans notre région, qui s'appelle la jacquerie. Je n'ai pas eu l'occasion peut-être d'en parler. La jacquerie, donc, on est dans les années 1358. Hein, et c'est une révolte du monde paysan contre les seigneurs. Et il est vrai que ceux-ci vont monter parfois à l'assaut des châteaux. Et voulant brûler les documents, ils brûlent le château parfois en même temps. C'est le cas, par exemple, à côté de Chaly, à Fontaine-Chaly, hein, puisque ce sont les Jacques qui vont détruire la maison forte de Fontaine-Chaly, qui appartenait à un certain Thomas Cornu. Ah, pourquoi Cornu? Bah, c'est le nom de son propriétaire. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails étymologiques. On pourrait le rentrer. Je sens un sourire. Ben, Cornu, non. Cornu, ça vient de serre. Ça vient des bois de serre. C'est-à-dire qu'il a probablement des bois de serre sur son home, en quelque sorte.
D'accord.
Hein. Et d'ailleurs, très longtemps, jusqu'au XXe siècle, Fontaine-Chaly s'appelait Fontaine les Cornus. C'est-à-dire Fontaine appartenant au seigneur de Cornu. Il y a encore des terres qui s'appellent Cornu à Fontaine. Voilà, ça nous a permis de revenir un petit peu. Alors évidemment, les gens de la Fontaine n'aimaient pas trop ça. Charles V se rend souvent à Chély. On a dans nos archives trois dates, mais bon, il y en a probablement d'autres, hein, encore à trouver, ou peut-être ont-elles disparu de notre chronologie. Je pense à une visite de 1366, une autre en 1372, et une autre enfin en 1374. Alors, ce qui devait être le plus important aux yeux de l'abbé de Chély, c'est la lettre de comitimus. Alors, ce terme en latin désigne une lettre très prestigieuse, une lettre royale au grand sceau, qui va être octroyée dans tout le royaume par la chancellerie de France et qui relève de la compétence des requêtes du palais. En un mot, c'est la protection royale qui vient d'être accordée non seulement au bien de l'abbaye de Chély, mais aussi aux personnes qui y vivent. C'est donc quelque chose, cette lettre, c'est un événement important, évidemment, pour les moines dans cette période de grand trouble. Elle sera par la suite, d'ailleurs, confirmée dans les décennies qui vont suivre. Dans sa lettre de sauvegarde, appelons-la comme ça, Charles V déclare vouloir défendre les institutions religieuses et plus spécialement, bien sûr, celles qui sont de fondation royale. Donc, le monastère de Chély, Károly Loki, est d'autant plus privilégié parce qu'il porte le nom, en plus, du roi. Le roi Charles, Carolus, hein, auquel il est le premier à ajouter un numéro d'ordre. Ce chiffre 5 est décliné de différentes manières par les religieux de Chély, d'ailleurs. Et, ils vont se faire en quelque sorte complices. Hein. Ils vont parler des 5 anniversaires perpétuels, ils vont parler du 5e jour du mois de mars, ils vont parler, enfin, etc. Ils vont filer la métaphore à propos aussi du nom même de Chély. Alors, voilà ce qu'il adresse au roi.
Ce monastère que vous avez refondé s'est appelé lieu de Charles depuis le début. C'est ainsi, en effet, à ce qu'on lit, que quelques-uns des puissants princes ont agi depuis l'Antiquité. Car le susdit Alexandre a appelé Alexandrie 12 cités qu'il a fondées. Et de poursuivre en évoquant Constantin et Constantinople, Charlemagne et un monastère en Germanie portant son nom, et plus près de Chély, Charles le Chauve, Charles II, qui voulait donner son nom à la ville de Compiègne, Carolopolis, dont il voulait faire la place centrale de son royaume. Le désir du roi de s'inscrire dans la succession de Carolus Magnus, ou Charles Ier, ou bien encore Karl der Große, lui fait choisir une représentation de l'empereur au sommet de son sceptre. Comment mieux imposer la dynastie des Valois face aux revendications anglaises?
Voilà, hein, voilà quelque chose qui marque véritablement cette volonté de s'imposer comme le successeur de Carolus Magnus, que vous connaissez bien sûr sous le nom de Charlemagne. Hein. Il va même jusqu'à faire placer la silhouette d'un empereur au sommet de son sceptre. Pour revenir à Chély, ne mettons pas non plus la concurrence d'une autre abbaye royale, celle de Royaumont, qui n'est pas très loin, hein, qui a été fondée presque un siècle plus tard. Les moines de Chély vont insister sur l'antériorité, justement, de leur abbaye par rapport à celle de Royaumont. Et pour supplanter Royaumont, qui porte un nom quand même oui. tout à fait oui. remarquable, pour supplanter donc Royaumont, eh bien, les moines de Chély font valoir que le nom du roi est inclus dans le nom même du monastère. Pour revenir, on s'est un peu éloigné, mais pour revenir un petit peu à nos livres, il faut savoir que la librairie de Charles V n'est pas encore un musée à l'image des musées qu'on trouvera au début de la Renaissance. C'est une bibliothèque d'inspiration religieuse telle qu'on peut la découvrir dans les trésors des abbayes et des cathédrales. Cette librairie comprend environ 1200 volumes. À cela, il faut ajouter les livres qui se trouvaient dans le trésor. Le trésor elle-même, c'est environ 4000 objets. 4000 objets qui sont souvent en écho avec les livres eux-mêmes. On va trouver des instruments scientifiques, on va trouver des camées antiques, on va trouver des portraits les plus fidèles du roi. Hein. Peut-être le plus connu, c'est celui de Jean de Bruges. Autrement, de Bruges, pardon. Savoir et voir, voilà ce qui guide en quelque sorte l'édification de la librairie par Charles V et Gilles Mallet. le roi transfère en quelque sorte sur les objets et les livres ses goûts, ses angoisses, sa détermination, son besoin d'appropriation et sa passion, sans s'inquiéter forcément de la survie de sa collection. On n'est pas placé dans l'héritage. Si Charles VI, donc son fils, va poursuivre un temps l'œuvre de son père, avant que celle-ci soit pillée sans vergogne par les oncles et les tantes et les cousins et les frères. On va dire même qu'elle a été rachetée par le duc de Bedford en 1424. Bon, tout cela reste encore très hypothétique et ne mérite pas pour l'instant de digression plus longue. Voilà dans quel cadre, c'est une façon de résumer aussi nos propos précédents, c'est installée cette bibliothèque. À Chali, les religieux déjà ont proposé un changement de paradigme, pour faire savoir, enfin, un changement de logiciel, en quelque sorte, annoncé par Guillaume de Diulville. On a déjà parlé des pèlerinages et du roman de Fleur de Lys, qui mélangent la littérature, la religion, la théologie, la morale et l'histoire. Hein. Eh bien, déjà, avant même donc, les décisions de Charles V de fixer, en quelque sorte, son blason, pour justifier l'héritage héréditaire de Charles V, les moines, on appelle à la rigueur dynastique carolingienne et mérovingienne, mais aussi aux grands souverains de l'Antiquité. On a parlé tout à l'heure de César, Justinien, etc., Alexandre. Ce glissement de longue durée donc existe depuis le début du siècle, depuis le début du XIVe siècle. Hein, donc ça ne s'est pas fait d'un seul coup sur une vision, tiens, je vais me faire un blason et puis ça sera comme ça. Hein. Bon, non, il y a un glissement d'une essence purement religieuse. Alors la fleur de lys, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais le lys, c'est la fleur de la Bible de l'Ecclésias, c'est la fleur de Marie, c'est la fleur mariale par excellence. Et dans une abbaye cistercienne, évidemment, où s'impose la figure de Saint Bernard, on ne peut pas manquer, évidemment, d'évoquer la fleur mariale et la Vierge qui, comme vous le savez, est un des personnages les plus importants mis en avant par Bernard. Donc, on va passer petit à petit d'une fleur de lys essentiellement religieuse et on va glisser vers une idéologie plus royale. On va passer d'un enseignement exclusivement divin et sacré vers une philosophie antique, espèce de, comment on dit en latin, studia humanitatis, c'est-à-dire faire ses humanités, comme on dira un peu plus tard, hein, donc s'intéresser à l'histoire, à la philosophie. Donc ce mouvement est important. Vous voyez que ce qui se passe à Chali, ce qui se passe à la librairie, ce qui se passe dans l'esprit de Charles V qui veut assurer sa royauté, tout cela va petit à petit se fondre, au hasard aussi des rencontres, au hasard évidemment des différents traités. Et on va petit à petit évidemment pouvoir déterminer comment ce blason va s'établir. Alors au début du XVe, ça recommence. Donc Charles V est mort, le Valois et le Mucien à nouveau deviennent le lieu d'affrontement entre les Armagnacs, ce coup-ci, et les Bourguignons. Peut-être un coup de chance, l'Anglais qui tient la région autour de Senlis et de Chali est un descendant du français Simon de Senlis, de la famille des Bouteillers. Alors peut-être ce duc de Bedford, par l'intermédiaire du gouverneur de Jean de Lancastre, va peut-être favoriser, lui, le lieu, éviter que les destructions soient trop importantes. Difficile de le dire, évidemment. On va, dans ce début du XVe, bientôt évoquer un personnage important pour nous, en tous les cas à Chali, c'est Jean de Montreuil. Jean de Montreuil, qui est favorable au roi de France, hein, et non pas aux Anglais, est un érudit, un latiniste. Eh bien, il va écrire une longue lettre dans laquelle on va pouvoir découvrir l'état, en quelque sorte, de l'abbaye de Chali au début du XVe siècle. Malheureusement, la littérature s'arrêtera parce que Jean de Montreuil sera une des victimes, encore une fois, du massacre des Armagnacs. Je n'entrerai pas dans le détail des difficultés qui vont voir s'opposer les différents écrivains à cette époque, mais on va voir que rapidement, celui-ci va s'imposer et pour nous, en tous les cas, va nous donner sûrement le texte le plus intéressant pour comprendre quelle était l'organisation d'une abbaye cistercienne au début du XVe, avec cette réserve que, bien sûr, on va enjoliver. Hein. On est là aussi dans un texte à géographie, je prenais, hein, donc plein de louanges qui nous prennent quand même avec une certaine mesure.